One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
SLP, salut les PD, salut Ariane, salut Ghislain.
Salut Philippe.
Bonjour Philippe.
Ouais, vous êtes en pleine forme, on dirait là.
Ouais.
Ouais.
Mais oui, on avait un grand débat sur Dusty Springfield et Petula Clark pendant
voilà.
Le générique. Voilà.
D'accord.
C'est très
et
important.
Alors, vous pouvez nous en dire plus? Oui, ça, si vous voulez, on en fait le sujet de l'émission, peut-être que.
Non, mais je pense que ce serait faire injure à Guite. Voilà.
Guite, qui, on le rappelle, est la chanteuse qu'on entend sur notre fin de générique.
Oui.
Qui est la Sheila allemande, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Qui en fait est danoise, mais qui est plutôt allemande.
Là, je pense que notre auditeur est perdu. Bah,
comme Dalida, quoi, je veux dire.
On va recentrer les débats. Donc, c'est la dernière émission de ce cycle sur homosexualité, homophobie, une sorte d'état des lieux.
Notre rédaction de rentrée.
Notre rédaction de rentrée. On fait une sorte d'émission, peut-être bilan par rapport aux trois premières qu'on a faites précédemment. Alors, où on en est, on a envie de parler peut-être de réalité contrastée. C'est ça le terme que tu utiliserais, Ariane?
Oui, voilà. Parce que c'est... Enfin, moi, j'ai eu envie d'arriver à ça tout le mois, en fait. Hein.
Bah, on
attendait
on
cette
est.
Émission.
Voilà.
Voilà.
Donc, nous y sommes.
Parce que, voilà, à chaque fois, il y a différentes... Il y a différents éléments. On l'a évoqué précédemment quand on parlait des initiatives au niveau diplomatique, que parfois les pays qui étaient porteurs de déclarations d'intention étaient pourtant sur leur territoire avec des réalités sociales
bien différentes.
Voilà. Et c'est assez impressionnant ce contraste. Voilà.
Tu penses à des pays en particulier ?
Bah oui, je pense aux pays à propos desquels j'ai récupéré des reportages sur France 24. C'est pas mal le site de France 24 d'ailleurs.
Ouais, mais c'est bien cette chaîne, moi j'aime bien.
On écoute
donc,
alors.
Bah allons-y.
Tu veux dire que le son parle de lui-même?
Absolument, merci beaucoup.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Objectif Espoir, une émission consacrée aux objectifs du millénaire pour le développement de l'ONU. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'objectif numéro 3. Il vise entre autres à promouvoir l'égalité des sexes et à mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Nous nous rendons en Afrique du Sud. Le pays est certes le premier du continent à avoir légalisé le mariage homosexuel. Il est aussi tristement célèbre à cause d'une pratique on ne peut plus choquante et révoltante. Là-bas, cela s'appelle le viol correctif, principalement ciblé les lesbiennes. Les violeurs prétendent vouloir les guérir, entre guillemets, et les faire revenir à une sexualité soi-disant corrigée, normale, d'où le nom affreux de correction. Des viols qui s'accompagnent de meurtres. Mais vous allez le voir, la résistance s'organise au travers d'associations diverses. Les victimes prouvent leur détermination à ne plus se laisser faire. Le reportage de Caroline Dumais.
En Afrique du Sud, une femme sur deux sera violée au cours de sa vie. Au cœur de Guguletu, une femme, cette nuit, a été violée. La victime est une ancienne championne de football qui n'a jamais caché son homosexualité. Millicent Gaïka a failli perdre la vie dans l'agression qui a duré toute la nuit. Elle est d'autant plus traumatisée que ce n'est pas la première fois qu'elle est violée. Agressée en 2002 par un groupe de 4 hommes pour exactement la même raison, on l'a violée pour la punir, pour la guérir, pour faire d'elle, lui a-t-on dit, une femme.
Il m'a dit qu'il allait me faire un enfant. Un enfant pour me faire comprendre qu'on peut pas aimer une autre femme.
SLP, pouh, ça calme.
Ah, je crois que c'était le mot, là. Merci Olivier pour ce jingle.
Non, moi ce qui m'hallucine, c'est la statistique, quoi. Une femme sur deux en Afrique du Sud sera violée. C'est hallucinant, quoi. Enfin, honnêtement, j'imaginais pas que c'était enfin, c'était un ratio pareil, quoi. Ça fait super flipper, quoi.
Et puis parfois plusieurs fois.
Oui, c'est ça. Ouais, ouais.
Mais en même temps, peut-être que comme elle, ça a été deux fois, il y en a deux autres, elles seront pas du tout violées. Je sais pas comment ils ont fait les statistiques, tu sais. Enfin bref.
En tout cas, c'est intéressant de voir que dans un pays qui sort donc de l'apartheid et qui, au nom de la lutte contre les discriminations, ouvre le mariage à tous les couples, d'accord, en Afrique, le premier pays et le seul en Afrique, oui, à faire ça, et un des premiers au monde aussi, parce que c'était il y a quand même quelques années, continue à avoir des pratiques plus ou moins ignobles. Enfin,
plus ou moins ignobles. Juste ignobles tout court, ça suffisait.
Tu vois, c'est ça qui est complètement incroyable. C'est-à-dire la persistance de ces trucs ancestraux et complètement...
En même temps, ancestraux selon quoi? Puisqu'il y a eu des espaces socioculturels dans lesquels... c'était admis, comme j'évoquais la semaine précédente, chez certaines tribus natives américaines du Nord, là, où... Enfin, donc, non, il y a aussi, moi, je me pose la question... Enfin, voilà, l'espace culturel et symbolique qui est lié au monde judéo-chrétien est aussi très porteur de ça. Et, enfin... Ouais, enfin, bref... C'est compliqué tout ça, parce que par exemple, tu vois, sur le regard sur l'homosexualité et sur la sexualité tout court au Japon, ça a été énormément changé par la période d'occupation par les Américains. Avant cette période-là, le rapport à la sexualité au Japon, qui reste aujourd'hui quand même super important, puisque c'est des inventeurs connus sur le plan international pour certains joujoux... vachement joujouesque, on va dire. Mais voilà, il y a quand même des choses sur le plan culturel et symbolique qui ont été changées par l'occupation américaine, notamment regardant l'homosexualité. Donc voilà, quand tu dis ancestral, moi ça me fait le même effet que quand Natacha Polony dit naturel.
Ah, tu oses me dire que j'ai...
Là, Ghislain réagit.
Voilà, mais c'est pour te dire pourquoi ça me fait réagir à ce niveau-là. Parce que non, ce qu'il y a eu avant, ça peut être un espace symbolique culturel aussi radicalement différent que ce qu'il peut y avoir ailleurs.
Ouais, ouais. Voilà. Bon, je pense que c'est pas dans ce sens-là. Ghislain, effectivement, c'est...
Oui, mais j'avais besoin de le préciser.
Je ne veux rien dire.
Voilà.
En tout cas, ils veulent pas corriger, entre guillemets, les hommes. Les hommes qui sont appelés.
Mais
le
attends, est-ce que les hommes, ils acceptent de dire qu'ils se font violer? C'est comme ce qu'on disait aussi la semaine dernière. Quels sont les faits qui sont rapportés?
Oui, on peut imaginer effectivement que ces pratiques-là existent
sous d'autres
aussi,
formes,
sous d'autres formes.
Ce serait dégrader la virilité alors que on voudrait l'avoir restaurée.
Ouais. En tout cas, une lueur d'espoir, c'est que justement ces femmes disent qu'elles sont violées.
Je pense que ça fait un moment parce que quand même, d'une part, on en entend parler ici, voilà, il y a ça. Après, le reportage, là, j'ai mis un tout petit bout, hein, c'est un reportage beaucoup plus long, puisque donc on a entendu l'introduction de l'émission, c'est quand même, c'est pas 5 minutes au journal de 20h. Et donc oui, on voit comment la police dit oui, je vais m'en saisir, comment la ministre prend part aux manifestations. Mais c'est extrêmement difficile pour elle, puisque voilà, au niveau... de la gouvernance de l'État, on porte des valeurs au niveau international, on est dans un espace législatif qui, etc. Mais la réalité de terrain, elle est terrifiante, quoi. Donc c'est très compliqué. Mais ouais.
On rappelle qu'effectivement, on parle de réalité contrastée, que l'Afrique du Sud... À l'ONU, effectivement, a porté la fameuse résolution qu'on évoquait, c'était la semaine dernière, c'est ça?
Voilà.
Donc là, du coup, effectivement, on s'aperçoit qu'au sein, enfin, à l'intérieur même d'un pays, il y a c'est plus qu'un grand écart, là. C'est effectivement, je sais pas comment ça peut se gérer, effectivement, même au niveau... politique, est-ce que véritablement derrière il y a une action qui est mise en œuvre pour lutter contre ce genre de pratique
parce que, mais parce c'est que... la même question que je posais moi par rapport à tous ces pays, enfin d'un point de vue un peu international, à tous les pays où il y a une législation cette fois qui est malvenue de notre point de vue, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi ? Parce que des gens sont punis légalement dans leur pays pour des choses qui, pour nous, relèvent d'un quotidien tout à fait classique et banal. Mais pour moi, la problématique est la même, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour révolutionner culturellement une société, quoi ? Parce que... C'est...
Vaste question. Je pense qu'effectivement, là, il y a sans doute besoin d'initiatives qui partent à différents niveaux, c'est-à-dire des initiatives au niveau du pays, donc avec des dispositifs, des lois qui soient votées, etc. Et après, effectivement, les résolutions telles qu'elles sont portées à l'ONU au niveau international sont nécessaires aussi. Mais à un moment, il ne faut pas que ces deux façons d'agir deviennent antinomiques ou se neutralisent.
En l'occurrence, en Afrique du Sud, le cadre légal, il est plus proche de ce qu'on pourrait souhaiter qu'ailleurs. Mmh. Et pourtant, ce qui se passe sur le terrain est détestable. Donc voilà, la question de comment on fait évoluer des mentalités, c'est la loi ne suffit pas, quoi.
La loi ne suffit pas. Mais là, du coup, effectivement, enfin, on a posé la question dans une émission précédemment, c'est à quel terme, à un moment, on peut arriver à une situation qui s'améliore véritablement et qu'on puisse mesurer de façon effective. Là, je pense qu'effectivement, ça ne change pas du jour au lendemain, nécessairement, c'est à l'échelle d'années, voire de décennies, peut-être plus, quoi. L'important, c'est de pouvoir mesurer ces évolutions, mais ça... Voilà, on peut se donner rendez-vous dans 10 ans et voir éventuellement
ce que ça a pu donner. Noël.
D'accord, Patrick. On fait une pause musicale.
On peut faire une pause musicale. Ah oui, c'est Patrick qu'on entend. Tu me fais peur là.
Non. Mais non, c'est Cat Power.
Ah oui, c'est vrai. If you could land your head. ça, c'était Patrick Bruel. Rendez-vous dans 10 ans.
Bah, j'aime bien cette version.
Moi aussi, c'est celle que je préfère.
Ouais. Premier extrait du nouvel album de Cat Power.
Son, tu fais bien de rectifier. Ariane.
Pas de problème. J'aime beaucoup Cat Power.
C'est vrai ?
Ah oui, arrête, je vais chanter The Greatest après. C'est...
Ah, mais c'est son meilleur album.
C'est pour ça qu'il s'appelle The Greatest, quoi. C'est pas un best-of, c'est l'album qui s'appelle comme ça.
On revient au sujet qui nous intéresse ce mois-ci et aujourd'hui. Donc c'est la fin, il nous reste un quart d'heure pour faire une sorte de dernier discours là-dessus.
Bon, arrête de parler, on a plein
de
trucs
voilà.
À dire.
Alors
vas-y.
On passe au son parce qu'Ariane
elle
nous a fait
au son, Ariane.
Bah ouais, allez.
C'est parti. Donc un son qui parle de lui-même.
C'est Vamos a México.
Si. Les militants pour les droits de la communauté homosexuelle peuvent laisser éclater leur joie et pour cause, c'est une première en Amérique latine. La ville de Mexico, administrée par la gauche, minoritaire à l'échelle du pays, a autorisé le mariage homosexuel.
Beaucoup disent que cette loi promeut l'homosexualité, mais en réalité, cette loi ne promeut rien du tout. Elle régularise simplement ce qui existe déjà, ce que nous sommes, c'est-à-dire une famille.
Si cette loi a été possible dans une région très catholique, c'est que la ville de Mexico est à la pointe des réformes dans un pays pourtant en pleine vague conservatrice.
Dans cette ville, nous pouvons faire les choses différemment. Si dans 18 États de la République, ils légifèrent contre les droits de l'homme et de la femme, ici nous continuons à avancer comme nous l'avons toujours fait.
Pour les militants gays, cette loi est l'aboutissement de nombreuses années de lutte.
Je suis vraiment heureuse, je vais me marier. J'espère que les personnes qui se marieront le feront avec respect et qu'ils ont conscience que nous avons travaillé très dur pour cela.
La ville de Mexico avait déjà autorisé l'union civile homosexuelle en 2006 et dépénalisé l'avortement en avril 2007. Dans le reste du pays, il reste illégal et peut être passible de 50 ans de prison.
La émission.
Et voilà. est-ce qu'on sait si pendant ces 50 années de prison, tu risques le viol correctif?
Non, parce que tu es au Mexique et pas en Afrique du Sud.
Oui, mais bon, on va savoir.
À moins qu'on les envoie en prison en Afrique du Sud.
Donc oui, parce que donc, la semaine dernière, on a eu un son qui parlait de l'Argentine, un premier pays à ouvrir le mariage à tous les couples. Voilà, et donc un an plus tôt, la ville seulement, donc pas tout le pays, à Mexico, s'est doté de cette disposition.
Bah, c'est un cas à part au Mexique.
Bah, isolé, apparemment. Hyper isolé, ouais, parce que c'est même pas une province, un truc, non, c'est la ville. Voilà. Donc là, le contraste est criant, quoi. C'est au sein d'un même territoire des dispositions légales radicalement différentes.
Et c'est pareil, là, on peut s'interroger sur comment on en arrive à une réalité comme ça, tellement différente du contexte culturel. C'est étonnant, une telle disparité. Enfin, moi, je sais pas, ça me pose plein de questions, quoi. Pas vous ?
Bah, quand tu vois la densité de la ville de Mexico rapportée à... Enfin voilà, le truc c'est encore une fois, c'est ailleurs. Et c'est des ailleurs qu'on ne connaît pas ou mal, à moins d'y être allé. Et voilà. Mais c'est vrai que même nous, on le voit très bien. Enfin, je veux dire, la plupart des personnes qu'on connaît qui ont grandi dans un espace rural et qui se découvrent une identité de genre ou une orientation sexuelle qui n'est pas conforme à l'hétérosexisme, ils vont dans une ville plus grande ou ils vont dans un pays où, enfin voilà, on cherche un ailleurs et souvent c'est là où il y a une ville universitaire ou voilà qu'on rencontre des états d'esprit qui sont plus hospitaliers.
Alors ça c'est vrai et en même temps moi je vois depuis quelques années un autre phénomène qui va grandissant parce que tu évoques la réalité française, c'est aussi des gays, des lesbiennes qui effectivement à un moment sont allés en ville, se sont assumés pleinement et reviennent soit dans leur ville, campagne d'origine, bien dans leur peau, totalement assumés, et finalement se réinscrivent dans leur territoire d'origine, seul, en couple, en famille, et apparemment, alors accepté ou pas, est-ce qu'ils le savent vraiment, je sais pas, en tous les cas, qui construisent leur vie et apparemment relativement bien, de façon assumée et épanouie, quoi.
Ce qui était possible il y a quelques années l'est aujourd'hui grâce à l'évolution des mentalités, je pense. Mmh. L'évolution des mentalités et des droits. Et ville ne veut pas dire forcément très accueillante pour les homos. Je pense à Saint-Pétersbourg, par exemple.
Je pense à Alice, c'est bizarre.
Non, mais moi, là, je suis mondial, si tu veux. Je pensais à Saint-Pétersbourg et à sa loi qui interdit de parler de l'homosexualité, justement pour ne pas promouvoir l'homosexualité, comme on disait dans ce reportage.
Alors quand tu ne parles pas d'homosexualité, tu n'en fais pas la promotion.
Oui, voilà, c'est-à-dire il est interdit de faire la promotion de l'homosexualité.
Non,
tu
n'as même pas le droit d'en parler, quoi. Donc même si tu as des propos homophobes, en fait, tu es déjà passible de... Tu n'as pas le droit de mentionner, tu n'as pas le droit de dire... Il n'y a rien, quoi.
Moi, j'aimerais, faire un petit hommage.
Santa Madonna.
Santa Madonna.
L'hommage, alors, en fait, ça va être une véritable chronique. Il va falloir qu'on trouve un jingle. Hein,
Santa parce que, Madonna.
Voilà. Oh, Ghislain a décidé de rendre un hommage mensuel, appuyé, prononcé à Santa Madonna. Donc, vas-y.
Non, mais rien.
Mois d'octobre, bah si, non,
oui,
pas rien.
Madonna a bravé ses dispositions à Saint-Pétersbourg en soutenant donc les homosexuels présents dans le stade et ailleurs. Et donc, il y a eu je sais pas combien de milliers de plaintes contre elle parce qu'elle a contrevenu à cette loi.
Ah, mais alors là, rien, tu l'as totalement volé son effet.
Et voilà.
Bah, t'avais qu'à y aller dès le début.
Non, mais voilà, quoi. Voilà.
Bah, bon, vas-y, refais-la à ta façon.
Non, c'est intéressant. On parlait des diverses actions et des convergences des combats et des différents combats. Les combats diplomatiques à l'ONU, les combats sur le terrain, le combat des gens sur Internet et tout ça. Et le combat de cette nana qui utilise sa notoriété mondiale pour justement mettre l'accent sur des choses qui sont absolument inadmissibles, comme cette loi complètement ignoble en Russie, quoi, qui interdit, voilà.
Mais ce que j'ai trouvé fort en termes de convergence, c'est que dans la même semaine, en quelques jours, on a eu les Pussy Riot au Goulag 2 ans, Madonna un millier de plaintes ou 3 000 000, j'en sais rien, et une autre grande ville, je crois que c'est Moscou, qui a banni la Gay Pride pour 100 ans.
Oui, ça j'aime beaucoup, ouais.
Voilà. Voilà, alors, c'était dans l'espace, je sais pas, en 4 ou 6 jours, quoi.
Pourquoi 100 ans ? Va savoir.
C'est peut-être le maximum qu'ils ont le droit de faire dans leur espace parlementaire.
Ah, tu penses ? Oui, c'est possible. Ça peut correspondre effectivement à des dispositifs...
Non, mais et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir l'espèce de mafia qui peut se mettre en place autour de ça. Enfin, tu vois, c'est cet aspect complètement fascisant et donc mafieux qui se met en place autour de ça. C'est-à-dire que le concert de Madonna à Saint-Pétersbourg, on savait qu'elle allait se prononcer donc en faveur des homos et tout ça.
Et
des Pussy Riot, n'oublions pas. Était surveillé, mais c'était hallucinant, quoi. Il y avait des gens, c'était hyper surveillé, tout le monde était hyper tendu, parce qu'on ne savait pas comment les gens allaient réagir à cette annonce, on ne savait pas ce que les opposants allaient mettre en place. C'était la même chose à Nice.
Voilà.
C'était la même chose à Nice avec le Front National. C'est-à-dire que quand Madonna est arrivée à Nice avec cette vidéo montrant Marine Le Pen avec une swastika sur le front,
c'est pas le même sens.
C'est pas le même sens, voilà. On savait pas si elle allait être diffusée, et le concert était sous tension. C'est-à-dire, moi, j'ai des amis qui étaient là-bas et qui disaient, mais c'était impressionnant, quoi. Le service d'ordre était sous tension parce qu'on ne savait pas. On savait qu'il y avait des gens du Front National qui avaient pris des places et qui étaient là et qui traînaient autour du stade, etc. On savait pas comment ils allaient réagir si cette vidéo était projetée telle quelle. Mmh.
C'est intéressant parce que moi ça me fait repenser au débat qu'on a eu lors de la deuxième émission, c'est-à-dire que voilà, en gros, les révolutionnistes, c'est le bon terme. Les révolutionnaires contre les réformistes. Peut-être que voilà, finalement, c'est les révolutionnistes qui vont l'emporter. C'est-à-dire qu'on a besoin des deux. Ça va te faire plaisir, Ghislain. Madonna, finalement, est-ce que c'est pas une révolutionniste d'une certaine façon? Parce qu'elle utilise, en fonction des espaces dans lesquels elle évolue, elle va utiliser les deux techniques, quoi. Un coup, elle va faire effectivement des actions à portée plus révolutionnaire quand elle est dans un territoire qui peut lui permettre ce genre de truc. Et puis, finalement, dans un autre espace, qu'elle a fait à Nice, qu'elle a fait à Moscou, elle va plus ou moins adapter ou modifier son discours ou l'événement qu'elle propose pour finalement pas se mettre complètement hors jeu ou hors la loi, mais en même temps porter une certaine parole, quoi.
À Moscou, elle s'est mise hors la loi, c'est-à-dire là, elle est en procès à Saint-Pétersbourg.
Mais elle avait la possibilité de le faire aussi, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, sur le territoire russe, elle prend un certain risque, mais le risque, il est mesuré aussi.
Bien sûr, évidemment, il est mesuré. Et
elle va pas finir
deux ans au goulag.
Elle va pas finir au goulag. On ne sait pas. En tout cas, elle risque des millions d'euros d'amende.
Oui, voilà. Mais elle n'a pas fait son concert dans une église orthodoxe.
Non, c'est vrai. Quoique, si tu regardes le début du concert, t'es dans une cathédrale.
Oui, c'est vrai.
À quand un concert de Madonna dans une église orthodoxe à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, ça sera encore plus fort.
Je sais pas si elle y remettra les pieds de sitôt, parce que à mon avis, elle va se faire arrêter et tout ça si elle met les pieds, si elle perd son procès.
Il nous reste 2 minutes pour conclure sur ce cycle. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter?
C'est dur, en fait, parce que cette dernière émission montre vraiment les réalités contrastées. C'est-à-dire qu'il y a plein d'avancées, mais en même temps, il y a plein de reculades.
Alors,
ou pas, c'est la question qu'on s'est posée est-ce que ce n'est pas les phénomènes statistiques ou c'est plus de faits reportés, en fait?
C'est ce que je disais à ce moment-là, quand on s'est posé la question, c'est qu'il faut bien séparer de les situations qui existaient avant, c'est-à-dire en Arabie Saoudite, on coupait la tête déjà aux gens il y a très longtemps, en Égypte aussi, etc. Et puis des faits nouveaux, comme des pays d'Europe de l'Est qui se crispent et qui mettent dans leur législation...
qui veulent mettre le mariage hétérosexuel dans la Constitution.
Spécifiquement dans la Constitution, ou des choses comme en Russie, où tout à coup on criminalise des propos homophobes qui n'existaient pas avant. Mais tu vois, il y a deux choses.
Ça, on peut imaginer aussi que c'est en réaction à des avancées par ailleurs dans d'autres pays. Donc, est-ce que ce n'est pas un phénomène conjoncturel lié, encore une fois, à encore des événements, une actualité tu parles de crispation, je pense que c'est ça, quoi. C'est un moment, le monde évolue autour de nous, alors durcissons en gros nos positions, crispons-nous sur nos valeurs.
Dans l'espace culturel et symbolique,
Front National en France, on se crispe, on conservatise encore plus et de façon très dure parce qu'on a peur du monde qui avance.
Et du coup, que va-t-il se passer dans les pays qui ont connu une révolution dite du printemps arabe?
Oui, c'est vrai, avec les situations qui n'évoluent pas beaucoup pour les homos, voire qui sortent pire.
À voir ce qui va sortir.
On en parlera une prochaine émission, parce que là, c'est fini, mes petits amis.
Eh bien, au revoir alors, Philippe.
Au mois prochain.
Oui, à la semaine prochaine, on ne sait pas encore de quoi on parle, mais c'est pas grave. On va trouver.
Ce sera la surprise.
Est-ce qu'on sait un jour de quoi on parle?
Au revoir.